réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
En dehors d'ici, la majorité du Congolais n'a pas accès à l'eau potable. Cela constitue un vrai paradoxe au regard des ressources en eau que regorge la RDC. D'après les experts, le bassin hydrographique de la RDC est le deuxième après celui de l'Amazonie en Amérique du Sud. Que faire pour promouvoir l'accès à l'eau potable à la majorité du Congolais? Les sujets vous intéressent. Appelez-nous dès maintenant au 081-890-63-94 ou alors envoyez-nous un SMS au 081-711-5001. Nous avons avec nous dans ce studio Jean-Pierre Béat, j'allais dire, qui est notre invité, l'expert en environnement. Il va répondre à vos questions. Alors, Jean-Pierre, comment expliquer ce paradoxe de un pays qui a le deuxième bassin hydrographique du monde après l'Amazonie en Amérique du Sud, mais la majorité de la population n'a pas accès à l'eau dans les centres urbains, selon certains chiffres, c'est autour de 45%, et à l'intérieur du pays, c'est moins que ça.
Oui, je vous remercie d'abord pour votre invitation. Et c'est un paradoxe, un contraste, voir un pays qui égorge des grandes ressources en eau douce et la majorité de la population n'accède pas facilement à cette ressource naturelle. C'est un paradoxe, un contraste. Nous le constatons, mais que faire? Si nous allons nous mettre à énumérer les chiffres des réserves d'eau que nous avons, ça serait vraiment époustouflant et les gens seront étonnés. Nous constatons que nous avons des grandes quantités d'eau, des ressources en eau, mais les gens ne sont pas, toute la population n'a pas accès facilement à cette eau. Mais c'est un contraste que nous constatons, mais il faut trouver des solutions. C'est pour cela, sans aller très loin, nous avons écrit un petit livre consacré à ces problèmes, intitulé « Accès à l'eau potable en République démocratique du Congo, enjeux pour le développement durable et lutte contre la pauvreté ». Alors, quand on n'a pas accès à l'eau potable, c'est vraiment la pauvreté. C'est le minimum qu'un être vivant peut avoir. Parce que chacun d'entre nous ici, avant de venir ici, a au moins touché d'une manière ou d'une autre à cette ressource naturelle qui est l'eau.
Et pourtant, il est bien possible de faire en sorte que la majorité de la population puisse avoir accès à l'eau.
Oui, le problème, c'est d'une part, c'est la volonté politique. On ne cessera de le répéter. Et en principe, quand on fait l'urbanisation d'une ville ou d'un quartier, la première chose à faire, c'est faire la canalisation d'eau, c'est-à-dire faire la connexion d'eau de façon à ce que chaque individu qui a une portion de terre ait l'accès à l'eau et à l'électricité. Oui. Malheureusement, quand on fait l'urbanisation dans ces pays, et on s'installe dans un coin où il y a des érosions, et c'est difficile d'introduire les canalisations d'eau. Donc, le problème d'eau se pose au niveau des canalisations, de l'accès, de l'accessibilité à l'eau. L'eau potable, nous l'avons suffisamment dans notre pays, mais on ne l'accède pas facilement. C'est ça la difficulté.
Oui. Dans le centre urbain, on sait qu'il y a la régie des eaux qui est là, qui fournit de l'eau. Mais si on doit prendre dans l'intérieur du pays, dans les fins fonds de nos villages, et comment des techniques simples que la population peut utiliser pour accéder à l'eau potable?
Avant de répondre à cette question, déjà la régie des eaux qui a le monopole de produire, je dis bien le monopole, de produire et de distribuer de l'eau dans des villes, n'arrive pas à faire son travail correctement. Et vous vous rendez compte que nous avons un réseau de distribution d'eau, un réseau qui date de 50 ans depuis l'indépendance, qui n'a jamais été ni renouvelé ni entretenu. Et vous comprenez déjà, dans des villes, il y a des
alors,
problèmes.
Alors qu'il y a un boom démographique, population...
Voilà. La population augmente. Chaque fois que la population augmente, il faut penser à élargir les réseaux de distribution d'eau. Malheureusement, ça ne se fait pas en fonction de l'augmentation de la population. Maintenant, pour revenir au village, dans les zones rurales, vous savez, au village, parfois, le village se regroupe autour de bassins d'eau, n'est-ce pas? Mais parfois, au village, l'endroit où on accède à l'eau n'est pas de très longue distance. Et parfois, les gens utilisent les eaux de source, et ainsi de suite, d'une certaine qualité. Mais il y a ce qu'on appelle les hydrauliques rurales qui s'occupent de faire les puits d'eau dans les villages pour ravitailler la population.
Oui, c'est ce service qu'on appelle le service hydraulique rural.
Rural, oui. Ce service-là, il est relativement indépendant de la régie des eaux, mais qui dépend du ministère de, je crois bien, de l'affaires sociales et développement rural.
Tout à fait.
Mais ce service-là fonctionne aussi d'une manière quelconque, non adaptée. Donc il faudrait revoir les systèmes de distribution de, dans le pays.
Alors s'il faut y aller par palier, par rapport aux pistes de solution, comment cela doit se faire de manière à ce que les choses changent, que l'eau soit vraiment disponible?
Oui, il y a une chose certaine, nous avons suffisamment d'eau dans notre pays, les eaux de surface et les eaux souterraines. Mais le problème, c'est l'accès à cette eau, donc les réseaux de distribution d'eau. Donc, par rapport à ce que j'écris dans mon petit livre ici, les sources de solutions, c'est tout simplement, d'après moi, c'est scinder, par exemple, la société de distribution de la régie des eaux en deux parties. C'est-à-dire une partie qui produit l'eau, une autre partie qui distribue l'eau. Et puis, responsabiliser la municipalité. La municipalité, c'est-à-dire les communes. Il faut que dans chaque commune, qu'il y ait un service d'environnement, je pense que ce service existe, qui s'occupe de l'eau et de l'électricité. Il faut que les bourgmestres de la commune sachent quel est le besoin en eau dans leur commune. J'avais posé une question à un bourgmestre de la commune dont j'étais le nom, et il ne connaissait pas le besoin en eau. D'ailleurs, il ne connaissait pas même pas la population de sa commune. Donc, il faut connaître d'abord les besoins en eau de la commune, de votre administration, et puis les besoins en eau, savoir par exemple que nous avons, pour notre commune de Matete par exemple, nous avons besoin de 50 000 mètres cubes. C'est un exemple. De cela, on dit à la régie des eaux de livrer à Matete 50 000 mètres cubes. En ce moment-là, la commune gère ses eaux, et puis quand il y a des défections des réseaux, on peut suivre de plus près des tuyaux qui sont coupés, et puis on essaie d'aménager, et on peut faire sérieusement les recouvrements. Maintenant, la régie des eaux, c'est comme un géant au pied d'argile. Il n'arrive pas à se retrouver partout. Il y a des coupures de tuyauteries. Elle ne sait même pas où mettre les pieds. C'est ce qui a un grand problème pour la distribution d'eau. Donc, ça, c'est une des pistes de solution. Alors, si nous maintenons la régie des eaux comme étant la structure actuelle, il faut utiliser les intrants chimiques locaux. Vous savez, pour traiter de l'eau, il faut des produits chimiques, tels que le sulfate d'alumine, tels que le chlore. Et dans notre pays, nous pouvons produire le sulfate d'alumine à partir de la bauxite qui se trouve au Bas-Congo. Et tous ces produits sont importés. Puisqu'ils sont importés, il faut mettre en jeu les devises. Et quand les devises manquent, vous comprenez, il y a des ruptures des stocks. Et quand tu as rupture des stocks, la qualité de l'eau potable diminue. En ce moment-là, la régie des eaux serait très sincère de ne pas livrer l'eau non potable aux gens. C'est ainsi que vous constatez qu'il y a le problème de délestage. On fait une certaine quantité d'eau, on donne à une commune et on fait les délestages. Alors moi, je crois qu'il faudrait favoriser des industries ou des entreprises qui produisent des intrants chimiques dans notre pays. La plupart des produits de traitement des eaux sont importés. Le chlore, le sulfate d'alumine, la chaux. Nous avons la chaux au Bas-Congo. Mais malheureusement, on importe tous ces produits et on ne veut pas qu'on installe ces usines ici, ces places, parce qu'il y a un problème de commission dans cette affaire. Donc, la régie des eaux peut s'organiser dans ce sens-là. S'il n'arrive pas à s'organiser, je crois qu'il faut responsabiliser la municipalité, des communes se prennent en charge.
Monsieur Jean-Pierre Béat, en attendant que la régie des eaux puisse s'organiser, en attendant que la régie des eaux trouve des moyens pour faire tout ce travail, comment la population peut s'y prendre? Est-ce que le système de forage, il faut promouvoir ça, c'est bon aussi, des forages d'eau?
Oui, je vous ai dit que le forage, donc, il y a les eaux de surface, c'est oui. Comme dans les rivières, comme oui. La rivière Ndili, le fleuve Congo. Et il y a des eaux souterraines. Oui. Toutes ces eaux existent. On peut faire des forages. Ce n'est pas l'endroit qu'on fait le forage qui aura ravitaillement. Il faudrait transporter l'eau du forage à un endroit de consommation.
Exactement.
C'est là où se trouve le problème. Hein? Donc, tout le monde ne veut pas puiser l'eau à la rivière Ndili, mais plutôt, il faut qu'il y ait les réseaux d'Ndili vers les consommateurs. C'est là où se trouve le problème. Donc, le problème d'eau, nous l'avons suffisamment. Mais là, il faudrait transporter ces eaux vers les consommateurs. Donc, il faudrait à un moment donné responsabiliser des communes, installer des châteaux d'eau. Et vous avez remarqué vous-même dans notre ville ici, est-ce qu'il y a des châteaux d'eau? Il n'y en a pas. Il faut des châteaux d'eau qui constituent des réserves d'eau. En cas de rupture ou en cas de panne ou de réparation, ces châteaux d'eau ravitaillent la population. D'ailleurs, c'est par gravitation que l'eau va descendre. Vous comprenez? Donc, ce principe de distribution n'est pas encore installé par la régie des eaux.
Oui. Et prenons le cas de la ville de Kolwezi dans la province du Katanga qui Bon, c'est le cas de. On nous a parlé de la ville de Colwezi. Hein. Il y a certainement d'autres villes à travers le pays qui sont sur de nappes phréatiques, mais qui manquent de l'eau. Et est-ce qu'il y a quelles sont les solutions pour ces genres de villes?
Bon, malheureusement, je n'ai jamais été à Colwezi, mais seulement, attention avec les eaux souterraines, oui. Parce que les eaux souterraines, ce sont des eaux qui viennent des sous-sols.
Oui.
Des villes comme Colwezi, d'autres villes de Katanga, sont des villes minières. Hein. Alors, quand les eaux souterraines sortent, quand on veut l'extraire, elles passent par plusieurs roches, et ces roches peuvent être avoir des contaminations, et qui peuvent contaminer l'eau de la consommation. Donc, il faut faire attention quand on extrait l'eau. Ça peut passer par une roche qui a l'uranium, par exemple. Ça peut passer par une roche qui a le cobalt. Et ça fait des contaminations. Donc, avant d'extraire ces eaux-là, il faut savoir la nature des roches par lesquelles les eaux passent.
Comment promouvoir l'accès à l'eau potable? Nous en parlons avec Jean-Pierre Beillet, spécialiste en environnement. Vous êtes intéressé par le sujet, vous habitez dans un coin où vous avez des problèmes d'accès à l'eau, vous rencontrez beaucoup de difficultés. C'est l'occasion d'en parler. Appelez-nous au 081 890 63 94 ou faites un SMS au 081 711 50 01. Notre invité est là pour répondre à vos questions, pour répondre à vos préoccupations.
Vous voulez dédier une chanson à ceux qui vous sont chers? Un espace vous est réservé. Samedi, dimanche, 9h à 10h, heure de Kinshasa, Karine Ganimbaya reçoit et diffuse vos dédicaces. Pour participer, écrivez-nous à dédicaces@radiocapi.net et demandez une chanson, et nous nous ferons le plaisir de vous faire plaisir. dédicaces@radiocapi.net.
Comment promouvoir l'accès à l'eau potable? C'est le sujet abordé en ce moment au cours de cette émission au Capi Service. Jean-Pierre Billat, spécialiste en environnement, est notre invité. La majorité de la population en RDC n'a pas accès à l'eau potable alors que notre pays, la RDC, dispose du deuxième bassin hydrographique après l'Amazonie en Amérique du Sud. Donc on est en train d'aborder la question avec notre invité. Il y a, professeur, une autre méthode qui sont parfois encouragés par les ONG qui distribuent du chlore à la population pour désinfecter l'eau. Vous estimez qu'en attendant, c'est aussi une bonne façon d'aider la population à accéder à l'eau potable?
Bon, alors je voulais revenir sur un principe.
Oui.
L'accès à l'eau potable repose sur trois paramètres.
Voilà.
D'abord, la distance
oui.
d'approvisionnement en eau. Les normes disent qu'il faut au moins 10 mètres de l'endroit de consommation. Donc, si vous quittez avec votre bidon d'eau ici pour aller prendre de l'eau sur Victoire, vous n'avez pas accès facile à l'eau. Admettons que cette eau se trouve à 10 mètres d'approvisionnement. Mais quelle est la qualité de l'eau qui sort des robinets? Donc, il faut aussi voir, il faut être sûr de la qualité. Si vous n'avez pas une bonne qualité, vous n'avez pas un bon accès. Mais admettons que les deux premiers paramètres soient justifiés. Mais quelle est la quantité d'eau qui sort au robinet? Si vous voulez avoir un bidon d'eau...
Par rapport à vos besoins.
Par rapport à vos besoins.
Oui.
Il y a des robinets maintenant qui ne coulent jamais. Il y a des enfants même qui ne savent pas qu'un enfant qui naît, il y a deux ans, il ne sait même pas, il voit seulement un robinet.
Ils n'ont jamais vu une seule goutte
qui sortir de là. Alors en ce moment-là, même si les robinets sont implantés au milieu de votre parcelle, vous n'avez pas l'accès à l'eau. Alors maintenant, les gens qui distribuent des chlores pour désinfecter l'eau, c'est bien. Les chlores, c'est un désinfectant puissant, ça désinfecte tous les microbes. Mais il y a un autre problème, c'est-à-dire que des matières organiques qui se trouvent dans l'eau. Si l'eau n'est pas... si on n'a pas éliminé des matières organiques dans l'eau, le chlore risque de former d'autres produits secondaires qui sont parfois cancérigènes. Donc, les traitements d'eau ne se limitent pas à l'injection de chlore dans l'eau, mais les traitements doivent être complets. C'est-à-dire qu'il y a tout un mécanisme. On capte l'eau, on décante, on enlève des matières organiques. Après avoir enlevé des matières organiques, on met les désinfectants. Et puis, on lance l'eau, évidemment, après avoir ajusté les pH, on lance l'eau dans le réseau de distribution d'eau. C'est tout un processus. Mais mettre des chlores directement, c'est bien, ça tue les bactéries, mais ça provoque des sous-produits secondaires qui peuvent être cancérigènes à l'organisme humain.
Voilà, on va poursuivre avec vous. On a déjà des auditeurs qui sont en ligne. Rachel Ndundu nous appelle ici en province orientale. Déborah Lomboto est ici également en province orientale. Théodore Mbouyamba est en Bujima et au Kasaï oriental. Modeste Mwamba est à Kananga dans l'autre Kasaï, dans les Kasaï occidentales. On commence avec Rachel Ndundu qui est ici en province orientale. Rachel, bonjour.
Oui, Allô, bonjour.
On vous écoute, Rachel.
Oui, j'aimerais un peu savoir si l'invité peut m'expliquer. Parce que, oui, j'aimerais savoir si entre l'eau de la régie des eaux et l'eau de la source, c'est pas la meilleure, l'eau qu'on peut prendre pour éviter la typhoïde. Et parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas prendre l'eau de la source et qui disent que non, il y a beaucoup de saleté. Il y a d'autres gens qui ne savent pas prendre l'eau de la régie des eaux. Comme moi, par exemple. Je ne vais pas prendre l'eau de la région parce que je sens qu'il y a beaucoup l'odeur de médicaments, tout ça. Donc ça me dégoûte. Et maintenant, je me rends de savoir si dans ce là, quelle est la meilleure qu'on peut prendre. Merci.
Merci Rachel. Déborah, vous êtes dans la même ville que Rachel, donc à Issyro, en province orientale. Bonjour Déborah.
Oui, bonjour.
On vous écoute Déborah.
Oui, ma question a un peu de savoir. Est-ce qu'ici à Issyro, il y a un problème de la typhoïde? Comme il y a beaucoup de typhoïdes et les gens ne veulent pas consommer l'eau de la régie des eaux, c'est aussi un problème. On manque aussi dans notre milieu là, dans notre recoin, il n'y a pas l'installation de la régie des eaux. Il n'y a que de l'eau de la source. Maintenant, ces gens-là vont se baser seulement à consommer l'eau de la source. Lorsque eux consomment l'eau de la source, et ils ont aussi de la typhoïde. Moi-même aussi, tel que je suis là, je vous dis, je suis victime de la typhoïde. J'étais hospitalisée à cause de la typhoïde parce que l'eau vraiment est impropre. L'eau de la régie des eaux, ça sort aussi dans des semaines, par semaine que 3 jours. Et pourtant, l'eau, nous avons besoin de l'eau. L'eau, c'est la vie. Il faut que l'eau puisse commencer à sortir chaque jour de 6h à 6h. Mais c'est parfois, ça vient de 2 heures après, et c'est fini comme ça, vous mangez de l'eau et vous êtes obligé de prendre l'eau de la source. Là, il y a beaucoup de saleté. Vous êtes victime de la typhoïde. Donc, il faut que ces gens-là vraiment réhabilitent encore le puits.
Merci, Déborah. On va aller du côté de Mbujima dans Lukasaï oriental pour retrouver Théodore Mbuyamba. Théodore, bonjour.
Bonjour, ma sœur.
On vous écoute.
Le droit d'accès à l'eau potable a une loi. Bien voté au Parlement, comme remarque que j'ai ici, dans nos provinces et villages, voire même certains quartiers urbains qui ressemblent à des camps de réfugiés où vous trouvez des gens montés, descendre avec des bidons, des vélos, et des femmes, tout ça, en train de chercher l'eau potable. Il y a l'absence d'eau potable presque partout. L'observation montre que depuis plus de 40 ans, les ménages congolais vivent sans l'eau potable. Voilà ma question. Et malgré le financement de la Banque mondiale, il y a des décennies, le pouvoir n'a pas vraiment donné l'accès à l'eau potable. C'est ce que je pose la question de savoir comment cet échec à l'accès de l'eau potable par les gouvernants. Est-ce l'autre invité peut me dire, cette absence peut être une pauvreté structurelle ou c'est seulement le manque de bonne gouvernance dans les secteurs combien vital par les autorités.
Merci Théodore. Modeste Momba, vous êtes à Kananga dans le Kassai occidental. Bonjour Modeste.
Bonjour, je m'appelle Momba. Bonjour les invités, l'invité de Radio Khadi.
Vous avez la parole Modeste.
Merci beaucoup pour ce sujet. Je pense que le problème d'eau potable, c'est un problème qui va résoudre. Parce qu'il y a un problème de solidarité. Nous rencontrons que le problème d'eau est un problème qui s'inscrit dans l'un des 5 chantiers que le président de la République pense. À cela, je voudrais que nous puissions d'abord comprendre que l'eau a une plus grande importance dans la vie de l'homme, parce que sans l'eau, l'homme ne peut pas vivre. Vous savez, toutes les maladies que nous sommes en train de rencontrer sont vraiment d'origine vitrolique. Alors, nous devons plus veiller à la qualité de l'eau que nous sommes en train de consommer, étant une nécessité pour la vie de l'homme. À cela, je voudrais plus parler de ce sujet sur cette agite du service que l'invitant est dans les têtes matières. Ici, j'ai parcouru, par exemple, j'ai vu ici à Lukunda, l'une des communes de la ville de Canada, il y a le système de forage. On a installé le système de forage dans l'hôpital de Lukunda. Mais la population malade dans cet hôpital n'a pas assez d'accès. En fait, on n'a pas fait le tour à deux chaînes. Donc, pour maladier, donc, la population malade doit beaucoup plus donner l'effort, dépenser beaucoup pour avoir l'accès à cette eau-là. Vous savez, quand quelqu'un est malade, il n'a pas plus d'accès à l'eau.
Voilà, Modeste. Modeste, merci. On a compris, Modeste, l'invité va réagir par rapport à tout ça. Donc, on veut parler de forage, mais la population n'a pas assez d'argent pour acheter de l'eau, donc, parce qu'il faut de l'argent pour avoir cette eau-là. Et l'invité va réagir. Soupi Niembo nous appelle de Kalima dans le Maniema. Soupi, bonjour.
Bonjour, monsieur Marcel, et bonjour aussi à Rachel et Dissiro. J'ai des préoccupations, mon frère, à poser auprès de votre invité qui est présent dans les studios. La première question, je demande auprès de notre invité, ici chez nous à Kalima, beaucoup de populations consomment de l'eau de la rivière. Je demande maintenant, il y a des fois que certaines personnes, après avoir consommé l'eau de la rivière pendant un mois ou deux mois, ils achètent aussi dans des pharmacies les pires pour mélanger, pour purifier d'autres eaux. Est-ce que je demande le fait de purifier l'eau et de combiner l'eau de chassé des pires et l'eau des rivières qui n'est pas purifiée, il n'existe pas de conséquences là-dedans. Et la deuxième préoccupation pour terminer, monsieur Marcel Mongombala, je demande auprès toujours de votre invité la question de demander l'eau qui est l'eau qui est au milieu de la rive, qui est vraiment sale, l'eau des bassins. Si on prend toutes les eaux-là et puis on purifie avec les sachets pires, est-ce que cette eau, en fait, cette eau peut devenir une eau assez potable ou bien elle peut devenir l'eau potable? Voilà ce que je voudrais demander. Je vous remercie, monsieur Marcel.
Merci, Soupi Niembo. Vous appelez donc de Kalima dans le Maniema. On va retourner du côté du Kananga dans les classes occidentales pour retrouver Albert Mwananga. Albert, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à notre invité, et bonjour à tous nos auditeurs de la radio Kati.
On vous écoute, Albert.
Oui, ici à Kalama. Je demanderais tout simplement demander à notre invité, est-ce que n'y a-t-il pas de moyens d'accélérer le système de forage afin d'accéder au moins à l'eau potable? Car ici à Kalanga, c'est très dangereux. Nous sommes exposés à plusieurs maladies d'hydrides. Nous prenons l'eau des pluies qui se trouve dans des puits. En tout cas, à ce moment-là, nous déplorons beaucoup vraiment pour ces cas, et parce que nous pensons toujours qu'ici au Congo ou en Afrique, on dit que l'homme noir ne meurt jamais de microbes. Alors, nous sommes vraiment habitués dans cette optique de choses. Je passe à la deuxième. J'aimerais toujours demander qu'est-ce qu'on attend par l'eau potable. Et la troisième, quand on a une quantité d'eau dans la maison, et on peut l'utiliser pendant combien de jours pour le vider? Merci beaucoup, monsieur journaliste, de m'avoir accordé la parole.
Merci Albert. Jean-Pierre Béat, bon, il y a vraiment plein de questions des auditeurs par rapport à cette question de l'eau qui est vraiment capitale. Oui. On a même soulevé qu'il y a des maladies hydriques lorsqu'on prend de l'eau qui n'est pas potable. Alors, on commence avec Rachel qui a demandé la différence entre l'eau de source et l'eau de la régie des eaux.
Bien, le terme source est peut-être impropre. Hein. Quand on dit source, d'une façon générale, en physique ou en science, c'est l'endroit où on puise l'eau.
Oui.
Maintenant, je comprends dans son sens, source, c'est cet endroit où sort de l'eau. Et souvent, ça sort sous les sols. Exactement. C'est ça la source. Au village, moi j'ai grandi au village, quand on parle de source d'eau, c'est un endroit aménagé et l'eau sort des roches. Hein. Et cet endroit, c'est bien aménagé et l'eau est relativement potable. Mais quand on parle, par exemple, de l'eau de la régie des eaux, attention, parce que je ne veux pas dire que la régie des eaux livre l'eau impropre à la consommation. Nous avons fait des expériences. Nous avons étudié l'eau de la régie des eaux dans ces installations de traitement. L'eau est de bonne qualité. Mais seulement quand cette eau parcourt les réseaux.
Dans les tuyauteries.
La tuyauterie. Et je ne sais pas si vous avez l'occasion de couper un jour ou vous avez déjà vu qu'est-ce que se trouve dans la tuyauterie de la régie des eaux. Il y a des matières organiques, il y a des biofilms, beaucoup de choses qui contaminent l'eau à son passage. Et parfois, les tuyaux sont cassés et des matières externes entrent dans les tuyaux. Et ainsi, les consommateurs se retrouvent à l'eau qui n'est pas propre à la destination. Sinon, la régie des eaux produit l'eau de bonne qualité. Mais c'est le problème des réseaux qui se pose. Donc, L'eau de la source, si la source est bien aménagée, elle doit être bien consommée, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, je reviens vite à le problème de notre ami du Kassai occidental qui a parlé de l'eau potable. Parce que beaucoup de gens confondent l'eau potable et l'eau pure. Par définition, qu'est-ce que c'est l'eau potable ? C'est une eau exempte, c'est-à-dire éliminée des matières toxiques, c'est-à-dire des matières chimiques toxiques et des bactéries. L'eau potable, c'est un aliment. C'est un aliment. Alors quand on dit l'eau pure, par exemple, c'est l'eau qui ne contient rien que l'eau, s'il faut dire ainsi. Tandis que dans l'eau potable, en plus de l'eau, vous avez des sels minéraux qui servent, n'est-ce pas, à la vie de l'organisme humain. Donc, l'eau potable, c'est un aliment qui est éliminé de bactéries, donc des micro-organismes et des substances toxiques. Mais tandis que l'eau pure, c'est une appellation qui est un peu fantaisiste, que ce n'est pas correct.
Alors, on revient à vous, on va continuer avec des réponses à d'autres questions. Le temps pour nous d'accueillir Sylvain Kassongo, qui est en ligne et qui nous appelle de Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Sylvain Kassongo, bonjour. Bonjour Sylvain.
Oui, bonjour Radio Capi.
Sylvain, on vous écoute. Oui, on vous écoute, allez, si vous avez la parole. Sylvain, vous avez la parole, allez-y. Okay.
Je voulais donner bonjour d'abord à tous les auditeurs de Radio Capi.
Oui, Sylvain, vous avez une radio.
J'ai quelques questions à poser à notre invité.
Sylvain, s'il vous plaît, si vous avez une radio à côté de vous, essayez de vous éloigner. Ou fermez carrément votre radio. Il y a une écho désagréable à l'antenne. Hein. Donc fermez votre radio et puis vous posez votre question. Allez-y, Sylvain. Vous allez suivre à partir de votre portable. Allez-y. Oh là, il est parti. C'est pas... On pourra le retrouver peut-être plus tard. Le temps pour lui de fermer sa radio ou carrément de s'éloigner de sa radio. Alors pour ça, on poursuivait avec des préoccupations.
Oui, il y a monsieur de Kassai Oriental qui a parlé de l'accès à l'eau comme un droit. Au fait, l'accès à l'eau potable, c'est un des droits fondamentaux de l'être humain qui se trouve même dans la Charte des Nations Unies depuis 2011. Notre pays... Dans son article, dans notre pays, dans sa constitution, plus particulièrement dans l'article 48 plutôt, on dit ceci, que la RDC doit, donc les gouvernements doivent garantir l'accès à l'eau potable à la population. Enfin, je ne le dis pas d'une façon littéraire, hein, c'est à peu près ça. C'est écrit dans l'article 48. L'accès à l'eau potable doit être garanti par les gouvernements et l'accès à l'électricité. Bon, il y a eu un code de l'eau qui est passé au Sénat, il a été voté. Maintenant, il faut l'application de ces codes. Nous avons connu des codes forestiers, nous avons connu des codes, beaucoup de codes, mais vous rendez compte, pour cette matière très sensible à la population, les codes de l'eau ne viennent qu'en ce moment ici, alors que l'eau, c'est le minimum.
Il faudra-t-il encore qu'il soit appliqué.
Appliqué. Donc, je vous dis que c'est l'eau, c'est le minimum. Si vous n'avez pas accès à l'eau, vous êtes des pauvres. C'est la pauvreté. Parce que chacun de nous, si le matin, à moins que vous soyez de quelle nature, est passé par l'eau. Donc, l'accès à l'eau potable, c'est le minimum que les gouvernements puissent faire pour la population. Avant, au lieu de nous parler de macroéconomie, beaucoup de choses que nous parle à la télévision, le minimum qu'on doit donner à la population, le minimum, c'est l'accès à l'eau potable. On ne manque pas de l'eau, mais le problème, c'est la volonté politique. Comment faire parvenir l'eau de la source jusqu'au consommateur et garantir l'assainissement de cette eau? C'est un problème de volonté politique. Vous vous rendez compte, il y a des codes miniers, codes forestiers, tout un tas de codes qui ont été votés. On vote maintenant les codes de l'eau en dernière minute, alors que c'est une matière très sensible. Donc, ce problème de volonté politique, il faudrait que les autorités y pensent. S'ils veulent le développement... Rendre ce pays un pays émergent, commencez par donner l'eau aux gens. C'est le minimum qu'on puisse faire. Il ne faut pas raconter n'importe quoi aux gens, que nous avons le développement, que nous sommes émergents, nous avons la bancarisation, sans donner de l'eau aux gens. Ça, c'est vraiment, si on ne le fait pas, alors notre gouvernement, c'est une bande d'assassins, parce qu'il faut le minimum, j'insiste, donner de l'eau potable aux gens.
On va vous retrouver tout à l'heure. Il y a l'ingénieur Mangoyo qui nous appelle de Kinshasa qui est en ligne. Ingénieur Mangoyo, bonjour.
Bonjour Marcel.
On vous écoute, ingénieur.
Oui, j'ai deux préoccupations. Hein.
Oui.
Bon, d'abord, je salue aussi notre invité. Bon, ma première préoccupation, c'est que moi, je suis ici à Kinshasa et à Maloueka, ici à quelques 200 disons, 200 mètres de l'usine de traitement d'eau de la Jurezo.
Mm-hmm.
Alors, il y a un phénomène que nous constatons ici. À chaque fois, quand il pleut, eh bien, la régie des eaux interrompt la fourniture d'eau. Alors, je voudrais que notre invité nous dise pourquoi cette façon de faire. Chaque fois, quand il pleut, la régie des eaux arrête de fournir l'eau. Ça, c'est une préoccupation. La deuxième préoccupation, il a parlé des intrants. Des intrants, notamment le chlore, que nous pouvons produire au pays, et précisément dans le Bas-Congo, et d'autres désinfectants encore. Alors, il a parlé justement des problèmes de conditions, parce que tous ces intrants, nous les importons, et ça, ce sont des devises qui sont souvent mises à contribution. Alors, lui, en tant que Congolais, en tant qu'expert, qu'est-ce que les Congolais doivent faire pour justement pour que tous ces intrants, ces produits soient, ces désinfectants soient produits au pays. Parce que il parle le premier de commission. Qu'est-ce que le Congolais doit faire pour que cela puisse se réaliser? Voici mes deux préoccupations.
Merci, ingénieur Bango.
Allez-y, il faut qu'on. Je peux répondre directement à monsieur l'ingénieur. Bon, la première question d'interruption de l'eau quand il pleut. Naturellement, quand il pleut. Quand il pleut, il y a les eaux de pluie qui ramènent de matières organiques et d'autres substances, pas les lessivage du sol, dans les eaux. La régie des eaux, honnêtement parlant, se rend compte que ces eaux seront plus polluées. Il faut traiter. Plus il y a de pollution dans l'eau, plus on doit augmenter le niveau de traitement. C'est ça la règle. Alors j'estime à ce niveau, la régie des eaux quand même est tout honnête, parce que quand il pleut, et il y a les eaux, des ruissellements qui entrent dans les sources d'eau et ça pollue davantage l'eau. Mais il faut, en ce moment-là, augmenter le niveau de traitement. Parlant des intrants chimiques, monsieur l'ingénieur Mangoyo, nous ne sommes pas au ciel, hein, nous sommes avec vous ici à l'RDC. Vous connaissez l'esprit de nos dirigeants. Je ne peux pas, à mon niveau, en tant que chercheur et professeur, je ne peux pas aller demander aux gens de faire ce qu'ils n'ont pas dans les programmes. À moins que je sois ministre de l'Environnement ou ministre à ce niveau-là, vous pouvez me poser cette question. Le pays a des intrants chimiques. Vous êtes ingénieur, vous connaissez très bien que le sulfate d'aluminium, on peut l'avoir à partir de la bauxite qui se trouve dans le Bas-Congo. Vous savez très bien que le chlore, on peut l'avoir à partir de sel, de l'eau salée de Mwanda ou de Bas-Congo. On fait l'électrolyse de cette eau, on peut avoir le chlore et le chlore peut désinfecter l'eau. Malheureusement, on importe tous ces produits. Que faire? Il faut que la régie des eaux crée des entreprises parallèles qui produisent, à l'instar de la Jacamine à l'époque, qui avait des usines de production d'acide sulfurique pour extraire les cuivres. Donc il faut que la régie des eaux crée ces usines-là. En créant ces usines, nous avons des intrants et puis on crée de l'emploi. C'est question de volonté politique, mon cher ami. Il ne faut pas rêver. Le problème se trouve ici sur Terre, nous sommes ensemble avec vous. Vous connaissez les mentalités des responsables congolais. Même quand nous parlons comme ça, ils nous suivent, pour eux, ce n'est pas les problèmes.
Il y a un auditeur qui l'a relevé. Est-ce que tout ce que vous dites, est-ce que le responsable ne vous suit pas pour savoir ce qu'il faut faire?
Ah, mais justement, c'est la seule voie. J'ai remercié beaucoup au CAPI de m'avoir accordé cette... Ils suivent, parfois ils font la sourde oreille. Le problème dans notre pays, c'est la volonté politique. Vous savez très bien que nous avons besoin des intrants chimiques. En les important, ça coûte cher. Et à côté, il y a des mines de chaux, de sulfates qu'il faut extraire. On importe. Qu'est-ce qui empêcherait à l'Argie des eaux de créer une entreprise parallèle qui permet, n'est-ce pas, d'exploiter ces intrants chimiques? Et cette entreprise, en les créant, ça crée aussi des emplois. Malheureusement, l'esprit de gouverneur congolais n'est pas là. C'est ailleurs.
La fabrication d'intrants chimiques sur place dans le pays peut vraiment apporter une solution par rapport à la
crise. Oui, peut apporter la solution.
On va revenir à vous, le temps d'accueillir Clément Mata qui nous appelle de Matadi dans le Bas-Congo. Clément, bonjour.
Bonjour Radio Café, bonjour à tous les auditeurs.
On vous écoute, Clément.
Bon, j'ai une préoccupation. Oui. Je posais une question à l'invité. Dans quel type de récipient peut-on conserver de l'eau? Parce que actuellement, on voit le bidon, par exemple, les contenants de l'huile, une fois vidé, qu'on utilise pour conserver de l'eau. Et puis, il y a aussi des bouteilles en plastique d'eau minérale qu'on jette, ou soit après consommation, que la population récupère pour conserver de l'eau. Est-ce que ce genre de récipients sont-ils vraiment indiqués pour conserver l'eau? C'est ça ma préoccupation.
Merci.
Dans quelle matière, dans quel type de récipient on peut conserver l'eau pour que ça garde sa...
Oui.
Et ça serait également l'occasion de répondre à un autre auditeur qui avait demandé pendant combien de temps peut-on conserver de l'eau?
Bien, dans quel type de récipient, il est préférable de conserver de l'eau dans les récipients en plastique. Parce que souvent, quand des récipients métalliques, quand l'eau est acide, et l'eau devient corrosive. Donc, elle peut faire la corrosion, c'est-à-dire que l'acidité de l'eau, surtout quand elle n'est pas bien traitée, l'acidité de l'eau peut corroser, n'est-ce pas, c'est le grand problème que nous avons avec la tuyauterie. Quand elle n'est pas bien traitée, si la tuyauterie est en plomb, c'est souvent en plomb, et l'eau qui passe dans cette tuyauterie entraîne aussi le plomb. Et les consommateurs consomment le plomb en aval. Mais il est préférable de garder l'eau dans des récipients en plastique. C'est beaucoup mieux. Alors, dans combien de temps on peut conserver de l'eau? Bon, ça dépend de la consommation à la maison. Si vous avez la maison, vous avez 5 personnes. Vous pouvez aussi faire ce petit calcul. Nous sommes 5 à la maison. Quelle est la quantité d'eau que nous pouvons consommer? Les gens, les responsables de famille ne font jamais ces histoires de petits travaux. Vous pouvez faire les calculs vous-même, la boisson, le ménage. Et si vous avez ces calculs-là, et vous pouvez puiser votre eau, les garder dans des récipients bien appropriés. Donc, combien de temps, ça dépend de la consommation et des besoins en eau que vous avez dans votre foyer.
Et la matière en plastique avec laquelle on conserve, qu'on utilise pour les bouteilles en plastique, pour conserver l'eau, au-delà d'une année, c'est pas un problème, on peut tout conserver?
Non, ça ne pose pas de problème. Pour l'eau, ça ne pose pas de problème. La matière plastique, c'est presque inerte. Hein. Elle ne réagit pas.
Mais avec de la matière chimique aussi, c'est fabriqué avec de la matière chimique, c'est une matière qui n'est pas dangereuse.
Bon, actuellement, les recherches ont montré que il y a le PVC, polyvinyle, chlorure de polyvinyle, réagit un peu avec de l'eau. Mais il est préférable, jusqu'à présent, au niveau de nos compréhensions, il est préférable de garder de l'eau dans les matières plastiques que dans des matières métalliques.
Donc, il n'y a pas de crainte par rapport à cela. On va découvrir des réactions qui nous sont parvenues par SMS. Luc nous écrit de Djougou, dans la province orientale. Il nous dit que l'invité nous parle brièvement du principe de créer localement une source d'eau potable. C'est lui, il aimerait savoir comment créer localement une source d'eau potable. Et également David qui nous écrit ceci pour... pour que l'accès à l'eau soit facile, faudrait que le gouvernement conjugue un minimum de volonté car la ressource en eau est, on ne sait pas très bien, on ne sait pas bien voir, mais au moins c'est qu'il dit que nous avons deux ressources en eau. Donc il est en train d'appuyer ce que vous avez dit, il faut davantage de volonté de la part du gouvernement. Là c'est David qui nous a écrit. Il y a également Ignace qui nous écrit de Lubumbashi. Il faut qu'à partir de la régie des eaux, d'autres entreprises commerciales de distribution d'eau potable se créent dans en dehors de la régie des eaux. Il faudrait que d'autres entreprises de distribution d'eau potable se créent pour faire concurrence entre elles. Ainsi, elles feront tout pour satisfaire leurs clients qui sont la population. Comment vous réagissez par rapport à tout cela?
Oui, disons que la régie des eaux a les monopoles de distribution d'eau, c'est-à-dire de production de distribution d'eau dans notre pays. Vous savez, quand on a les monopoles, à l'époque, quand il y avait une société qui avait les monopoles de téléphonie cellulaire, vous comprenez combien l'appareil cellulaire coûtait. Et maintenant, pour des matières stratégiques comme l'eau, il faudrait d'autres stratégies. On ne peut pas donner ça à n'importe qui pour exploiter ces problèmes. Ailleurs, par exemple, en Europe, il n'y a pas seulement une seule société qui distribue d'eau. Ça dépend des communes, des municipalités. Chaque municipalité s'organise. Chaque municipalité s'organise ou un groupe de municipalités s'organise et trouve des sociétés qui peuvent ravitailler. Les réseaux existent déjà. On prend de l'eau. Là, je voulais répondre à la question d'un ami qui demande comment créer une source d'eau potable.
Potable, exactement.
Alors, comment créer une source d'eau potable? Bon, il faut d'abord capter les eaux dans des rivières ou dans le souterrain, dans le sous-sol. Donc, il y a d'abord le captage. S'il faut capter de l'eau, il faut connaître le volume d'eau captée. Parce qu'on ne peut pas traiter l'eau sans connaître le volume. Ça, c'est sur le plan chimique. Parce que si vous voulez traiter l'eau d'une rivière, la rivière qui coule, les produits que vous allez mettre, ça coule, ça n'a pas de sens. Il faut d'abord capter l'eau, ça, c'est la première étape. En captant de l'eau, vous avez le volume d'eau bien déterminé. À partir de ce volume d'eau là, il y a deux méthodes de traitement chimique qu'il faut utiliser. On peut utiliser des traitements chimiques en utilisant les produits chimiques, ou bien on peut utiliser des méthodes physiques en utilisant des ultraviolets ou des filtrations, ainsi de suite. Dès que vous avez déjà, après avoir capté, utilisé les traitements, maintenant on peut les distribuer. C'est ça le problème. Maintenant, pour les distribuer, pour qu'il n'y ait pas de délestage, il faut savoir quel est le besoin en eau de la communauté pour laquelle vous avez fait des réserves d'eau.
Voilà, on va s'arrêter là, Jean-Pierre Billat. Nous rappelons que vous êtes spécialiste en environnement et vous étiez notre invité pour parler du comment promouvoir l'accès à l'eau potable. Vous avez proposé de pistes, de solutions. On espère que c'est tombé dans de bonnes oreilles et que...
Je le souhaite. Voilà, parce que l'eau, c'est une stratégie. Oui, vraiment, j'insiste. Ça, c'est... Si vous ne commencez pas par l'eau, en tout cas, c'est la pauvreté. L'eau, c'est une source stratégique. Je les reprends. Chacun de nous, ici, ce matin, est passé par l'eau, d'une manière ou d'une autre, en prenant son café, en prenant son bain. Et si vous n'avez pas d'eau, vous ressemblez tout simplement aux animaux. Vous ressemblez tout simplement aux poules qui utilisent le sable pour se laver. Mais l'eau, il faudrait que les autorités, s'ils veulent le développement de ces pays, commencent par livrer de l'eau potable aux habitants, à la population.
Il y a même quelqu'un qui a dit, si vous refusez de vous laver avec, vous allez au moins boire de l'eau.
Oui.
Donc c'est important.
Non, c'est incontournable. Chaque jour, si vous n'utilisez pas l'eau, vous ressemblez à une bête, à un animal. C'est pas normal.
Jean-Pierre Villa, spécialiste en environnement. Merci.
Ok, merci. Je vous remercie aussi.